Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, les derniers jours de Vincent Lambert avec l'arrêt des traitements décidés par l'équipe médicale après une très longue bataille judiciaire, une procédure dénoncée par les parents de cet homme plongé dans le coma depuis plus de 10 ans. On voit ça, Agnès, après les autres titres.
La campagne pour les européennes J-6, question de fond et question de forme avec la recherche d'assesseurs pour tenir les bureaux de vote. Dernière semaine de campagne aussi pour Manuel Valls, candidat à la mairie de Barcelone. Les producteurs pas tous d'accord sur le calibrage des abricots. Et puis Kylian Mbappé sera-t-il encore parisien la saison prochaine? Il a laissé planer le doute hier soir en recevant plusieurs prix en Ligue 1.
Les invités de France Inter ce matin. Bonjour Alexandra Ben Saïd.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À 7h50.
Elle s'appelle Ginette Colinka, c'est une grande dame de 94 ans, une rescapée des camps qui publie un récit inoubliable. Comment ça a été possible? Est-ce que plus jamais ça, elle y croit? Le risque d'un retour aux années 30, le voit-elle? Les survivants, Nicolas, ne sont plus qu'une centaine aujourd'hui. Alors rendez-vous avec Ginette Colinka, témoin de l'histoire, à 7h50.
À tout à l'heure, Alexandra. À 8h20, la suite de nos grands entretiens spéciaux pour ces élections européennes. Une tête de liste par jour au micro de France Inter. Ce matin, c'est François-Xavier Bellamy pour la liste Les Républicains. Vous pourrez dialoguer avec lui, évidemment. 01 45 24 7000. Le standard est là, il est ouvert.
France Inter. Jusqu'au bout, les parents de Vincent Lambert vont tenter de s'opposer à l'arrêt des traitements en déposant aujourd'hui encore 3 nouveaux recours. Vincent Lambert, 42 ans, est plongé dans un état végétatif chronique irréversible depuis un accident de moto il y a 10 ans. La famille est depuis divisée. Sa femme, son neveu et certains de ses frères et sœurs demandent l'arrêt des traitements, affirmant que c'était la volonté exprimée par l'ancien infirmier avant l'accident. Ses parents, fervents catholiques, s'y opposent. Soutenus par 200 personnes, ils ont manifesté hier devant le CHU de Reims. Elisa Guyenne a recueilli le témoignage de David Philippon, demi-frère de Vincent Lambert, qui soutient la démarche des parents.
Mes parents, ils sont effondrés. Enfin, et puis on ne sait rien. Le Dr Sanchez ne nous a encore rien dit de la manière dont il allait s'y prendre. Est-ce qu'on va être présent? Moi, personnellement, je vais être témoin de l'endormissement de Vincent. Je veux vraiment être témoin je veux être à côté de Vincent jusqu'au bout. On nous dit que ça devrait prendre environ de 4 jours à une semaine, on ne sait pas. Et là, il sent ce qui se passe autour de lui. On le voit réagir à notre présence. On la connaît, sa situation clinique, on la remet pas en question. Vincent est très lourdement handicapé. Maintenant, sa place n'a plus à être dans un hôpital. Il doit être dans un établissement spécialisé, qu'on ait un projet de vie autour de lui. Nous, maintenant, notre place, c'est d'être aux côtés de Vincent et surtout, nous les enfants, d'entourer nos parents dans ces moments qui vont être extrêmement difficiles.
Alors, comment va se passer cet arrêt des traitements? Après la décision de justice, le Conseil d'État et la Cour européenne des droits de l'homme ayant validé la décision, le médecin qui suit Vincent Lambert au CHU de Reims, Vincent Sanchez, va mettre en place, dès aujourd'hui, Daniel Messager, cet arrêt des traitements.
Ce sont l'alimentation et l'hydratation artificielle qui maintiennent en vie Vincent Lambert, des traitements et non pas des soins, sans lesquels il ne pourrait pas vivre. Il s'agit donc bien d'un cas d'obstination déraisonnable, pour lequel la loi Claeys-Leonetti de 2016 est très claire. Les traitements peuvent être suspendus lorsqu'ils apparaissent inutiles et n'ont d'effet que le seul maintien artificiel de la vie. La procédure est très encadrée. L'arrêt de l'alimentation et l'hydratation doit se faire en même temps qu'une mise en place d'une sédation profonde et continue, un endormissement jusqu'au décès qui ne précipite pas la mort, sinon on serait dans le cadre d'une euthanasie, ce qui est illégal, mais qui a pour but d'éviter tout inconfort au patient. Et c'est l'essentiel pour l'équipe médicale. Accompagner jusqu'au bout sans souffrance. Il n'y aura pas de sensation de faim ou de soif. Vincent Lambert est inconscient. En revanche, des soins lui seront apportés contre la sécheresse de la bouche, toilette, massage. Le décès survient au bout de quelques jours par défaillance des organes. Vincent Lambert quittera alors cette vie que le rapporteur du Conseil d'État avait qualifié de nuit de solitude et d'inconscience.
Et puis sur un plan plus politique, François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains pour les Européennes, dénonce une décision précipitée et demande à Emmanuel Macron d'intervenir. 10 ans de bataille judiciaire à retrouver sur franceinter.fr.
Il est 7h05, Agnès, la campagne pour les Européennes, dernière ligne droite.
Le chef de l'État à la manœuvre avec une grande interview qui doit être publiée demain matin dans la presse régionale. 15 ministres se sont succédés hier pour un Facebook Live live de 12h. Et les débats s'enchaînent. LCI ce soir, BFM demain, France 2 et France Inter mercredi. Dernier meeting aussi, Najat Vallaud-Belkacem et Anne Hidalgo hier aux côtés de Raphaël Glucksmann à Paris pour soutenir la liste PS Place Publique. Et la présence très décriée de Steve Bannon à Paris, l'ex-conseiller de Donald Trump qui soutient la ligne du Rassemblement National. Et puis une inquiétude sur le plan pratique. À 6 jours du scrutin, y aura-t-il assez d'assesseurs dimanche pour tenir les bureaux de vote? Enquête signée Mathilde Dehimy.
Toulouse respire. Les 80 assesseurs manquants sont presque tous trouvés. Grenoble a de son côté dû lancer un appel aux citoyens car les partis politiques fournissent de moins en moins de militants pour tenir les bureaux, constate Laurence Compara, adjointe au maire de Grenoble.
Il nous manque moitié d'assesseurs. On avait une sérénité qu'on n'a plus aujourd'hui. Donc on court après les mouvements politiques pour qu'ils nous donnent des noms. On fait des appels aux citoyens, aux citoyennes pour qu'ils se mobilisent à cette occasion-là. Ça nous demande une énergie et ça génère un stress qu'on n'avait effectivement pas auparavant.
Contrôler l'identité des votants, ouvrir l'urne, les faire signer, les assesseurs sont au cœur du processus démocratique. Impossible d'ouvrir un bureau de vote sans eux, rappelle Philippe Laurent, maire de Sceaux et secrétaire général de l'Association des maires de France.
Lorsque le bureau de vote n'est pas garni de manière suffisante, un président et deux assesseurs, eh bien le président peut réquisitionner un électeur présent. Ceci étant, le maire, par exemple, aura quand même quelques difficultés à imposer à quelqu'un qui est juste de passage pour voter, en lui dire « puisque vous êtes là, vous allez rester pendant 3 heures au bureau ». Je pense que ça ne marchera pas.
Des réquisitions de citoyens rares et très ponctuelles. Les assesseurs sont bénévoles et doivent être inscrits sur la liste électorale d'une commune du même département.
Élection toujours, mais de l'autre côté des Pyrénées, où un ex-premier ministre français est visiblement à la peine. Manuel Valls, qui tente sa chance aux municipales de Barcelone, qui ont lieu également dimanche prochain, est actuellement 4e dans les sondages. Mélanie Nunez est à Barcelone pour France Inter.
Dans un quartier huppé de Barcelone, des affiches de Manuel Valls placardées. C'est ici que vivent les électeurs de classe moyenne qu'il veut convaincre, comme Jaume, qui refuse de voter pour lui.
C'est quelqu'un qui a été parachuté. J'en suis sûr qu'il connaît très bien la France, mais je m'en doute qu'ils connaissent quelle est la réalité de Barcelone.
Quand ils parlent d'insécurité, par exemple.
Les niveaux de sécurité sont tout à fait acceptables. Je pense qu'ils ne connaissent pas la ville.
Un programme loin des réalités où le logement, le travail sont des préoccupations, explique Raquel et Flora, sa fille.
L'éducation et la santé ne font pas partie de ses propositions pour les citoyens. Une personne qui vient d'ailleurs et qui nous dit ce qu'on doit faire à Barcelone, c'est non.
Manuel Valls, qui s'oppose à l'autonomie de la région, doit composer avec les indépendantistes comme Josep. Il ricane lorsqu'on lui parle du candidat. Il lui demande de repartir en France, de régler les problèmes des Français. Si les Français n'en veulent pas, pourquoi nous en voudrions? Il est venu jouer du pipeau. Il n'en a rien à faire de la Catalogne, lui assène-t-il. Mais malgré les mauvais sondages qui prédisent une défaite, Manuel Valls l'affirme, sa vie politique est en Espagne, quel que soit le résultat. Barcelone, Mélanie Nunez, France Inter.
Retour en France avec dans l'actualité judiciaire des confrontations attendues cette semaine entre l'ambassadeur du Vatican en France et les 4 hommes qui ont porté plainte pour agression sexuelle. Des confrontations demandées par Mgr Luigi Ventura, mais les victimes présumées que Julie Pietri a rencontrées s'interrogent sur le sens de cette démarche.
Benjamin, 39 ans, a pris la parole sur le tard quand il a entendu d'autres témoignages, quand il a compris que ce qui lui était arrivé en 2018, lors d'une cérémonie à la mairie de Paris, n'était pas une exception.
Je sens une personne qui se met à côté de moi. Cette personne pose une main sur mon épaule et avec l'autre main m'attrape la fesse gauche. Un homme avec un col romain.
Vous vous sentez comment vis-à-vis de l'idée que vous allez vous retrouver face à lui?
Il coopère. C'est très bien. Je ne suis pas du tout traumatisé à titre personnel. Tout le monde ne réagit pas comme moi. Après, je veux que ça aille jusqu'au bout.
40 ans qu'ambassadeur, le nonce bénéficie toujours de l'immunité diplomatique, il est protégé. La confrontation est donc biaisée, alors que certains plaignants, dont un très jeune majeur, voient ce face-à-face comme une épreuve. Mathieu de la Souchère, le premier à avoir accusé Luigi Ventura.
Quand d'autres victimes me contactent pour me dire « j'ai peur de me retrouver face à lui » et au bout du compte, qu'est-ce qu'il adviendra puisqu'il est juridiquement protégé, qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là?
Maître Antoinette Fréty, en contact avec 3 plaignants.
Il ne risque rien, il place évidemment les victimes dans une difficulté qui est celle que ce qu'ils attendent. attendent, eux, ce ne sont pas des confrontations de pacotille, ce sont des réponses. C'est le droit de, aussi de voir leur auteur jugé conformément aux dispositions de la loi pénale française.
Le Vatican a reçu, en fait, depuis quelque temps déjà, la demande de levée d'immunité diplomatique du nonce transmise par le Quai d'Orsay, mais aucune décision n'a été annoncée pour le moment.
Un homme radicalisé, condamné pour apologie du terrorisme, est en fuite depuis 2 mois. Cet Algérien vivant à Valence a profité d'une assignation à résidence pour prendre la fuite. C'est une information de nos collègues de France Bleu Drôme Ardèche. La reprise aujourd'hui du procès du couple Balkany jusqu'à la fin du mois de juin. Lui est poursuivi pour corruption, elle pour blanchiment. Le tribunal correctionnel de Paris va s'interroger sur l'origine des fonds qui ont permis aux époux de mener grand train durant des années. Le détail dans le journal de 8h. Et puis dans le journal de 7h30, nous ferons un point en direct sur la mobilisation des taxis et des patrons d'auto-écoles qui entendent manifester ce matin.
Il est 7h10, Agnès. La guerre des abricots est déclenchée.
Avec d'un côté les professionnels qui viennent de reconduire un accord vieux de 10 ans sur l'obligation de calibrage des abricots et de l'autre, la seule confédération paysanne qui ne comprend pas pourquoi la profession s'impose elle-même de telles normes. Explication signée Manuel Ruffez.
Ce sont bien deux visions de l'agriculture qui, sur ce terrain-là aussi, s'opposent encore. Il y a celle majoritaire qui vote cet accord et qui pense ainsi proposer aux consommateurs des étalages plus attractifs, un produit mieux valorisé pour assurer de meilleurs revenus aux producteurs. Daniel Sauvêtre, le secrétaire général de l'interprofession des fruits et légumes.
Quand on veut séduire un consommateur, que le produit soit chatoyant à ses yeux, eh bien, il faut avoir une présentation la plus homogène possible. Ça n'est que la traduction de cette réalité sur les marchés, de cette volonté des professionnels de vivre le mieux possible de leur métier et bien valoriser leurs abricots, qui est venu cet accord.
Mais la Confédération paysanne, elle, dénonce, outre le travail ou l'investissement supplémentaire pour ce calibrage, une volonté de normalisation qui va à l'encontre des désirs aujourd'hui des consommateurs. André Bouchu.
Avoir un système uniformisé, de plus en plus gros, de structures très carrées, de plus en plus industrialisées, avec des fermes importantes. Et nous, on dit non. Ce qu'on veut, c'est de la qualité, c'est de la proximité, c'est de la relocalisation, c'est de la diversité, c'est de le fait de vouloir normaliser tous les abricots, tous les fruits, tous les légumes. C'est pour moi une vision du passé.
D'autant que ce secteur ne se porte pas bien, inondé notamment par des abricots en provenance d'Espagne.
Meilleur joueur, meilleur espoir, Agnès, Kylian Mbappé, une nouvelle fois tout en haut de l'affiche.
C'était hier soir à la remise des prix du championnat de France de la saison 2018-2019. Mais l'attaquant du PSG a semé le doute sur ses intentions pour la saison prochaine. Martin Bartoletti.
Tout en haut de l'affiche est reconnu par ses pairs. Jamais un footballeur de Ligue 1 n'avait autant fait l'unanimité. Kylian Mbappé est monté 3 fois sur la scène pour recevoir un prix. Celui de meilleur footballeur de Ligue 1 décerné à la toute fin de la soirée. C'est le moment choisi par le prodige parisien pour adresser un message au club de la capitale. Il veut plus de responsabilités.
Si c'est au Paris Saint-Germain, c'est tant mieux, avec plaisir. Et si c'est ailleurs, ce sera ailleurs pour un nouveau challenge. Voilà, lorsque je suis quelqu'un d'entier, lorsque je dis quelque chose, je le pense. Donc je pense que pour moi, c'était le bon moment de le dire et... voilà, je l'ai dit. Merci beaucoup.
Vif et insaisissable, comme chaque week-end sur les pelouses de Ligue 1, Kylian Mbappé a filé rapidement et n'en dira pas plus. Juste de quoi semer le doute à 3 semaines du début du mercato estival. Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2023, la pépite de Bondy attire les plus grands clubs d'Europe. En première ligne, le Real Madrid d'un certain Zinedine Zidane.
Et hier soir, le prix du meilleur joueur français évoluant dans un club étranger a été décerné à Karim Benzema et ses 21 buts en Liga avec le Real Madrid.
Merci Agnès Soubiran.